Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 19 novembre 2017. Alors, heureux de vous retrouver ce soir. Alors, au programme, je vous propose une rencontre avec l'artiste Frédéric Lebrasseur. Frédéric, c'est une figure artistique connue et reconnue à Québec pour l'intensité et l'originalité de sa démarche musicale et sonore. C'est un musicien autodidacte, improvisateur, c'est un créateur multidisciplinaire. Frédéric Lebrasseur ajoute, on pourrait dire, à la qualité des modes ambiantes par ses rythmes percussifs et vraiment joyeux. Alors, Frédéric Lebrasseur compose depuis plusieurs années des univers sonores originaux pour des environnements filmiques, théâtraux et chorégraphiques. Ses œuvres ont été vues et entendues dans plus de 25 pays. On écoute d'entrée de jeu une pièce intitulée « Évasion ». C'est suivi d'une autre courte pièce qui s'intitule « Eternalis ». C'est deux pièces vraiment touchantes et drôles. C'est un monologue tiré de l'album live intitulé « J'ai été élevé par des végétaux live à la radio. »
J'étais perdu. J'ai perdu fort. Perdu très fort. Ça feedbackait dans ma tête. Il y avait comme un effet de retour. Toute ma vie, j'avais couru. Puis là, enfin, j'entendais. Je m'étais élevé tellement haut. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment pas grand. Puis là, je me sentais grand. Je me suis mis à marcher. De toute façon, on marche tout le temps. J'ai marché toute ma vie. Mais là, je marchais dans le petit gazon de banlieue. Ça me chatouillait les pieds. J'aimais bien ça. Il était humide. Mais je continuais de marcher toujours devant moi. Je voyais l'horizon. Mais l'horizon était cassé par une montagne. Moi, ce que je voulais, c'était m'élever en haut de la montagne. Mais je m'élevais en même temps que les végétaux. Ouais. J'étais rendu au foin. Puis ma barbe, elle a poussé. Ils se sont croisés les deux en même temps. Puis là, dans l'horizon, il y a eu comme un éclair, mais un éclair latéral, ça c'est rare. J'ai continué à marcher. Puis là, c'est devenu du foin immense. J'ai marché tellement haut que c'était des épis. J'étais un épi parmi tant d'autres, avec son poncho comme ça, l'habit. Ça m'a donné un petit répit. Puis après, je suis reparti. Puis là, j'ai tracé. Je continuais tout droit. Les épis se tassaient tranquillement pour me laisser une place. Mais j'étais rendu tellement haut. J'étais comme au sommet de l'ascension, au summum de quelque chose par en haut. Je me sentais comme Coltrane quand il est dans une bonne passe. Le soleil était tellement fort que le maïs s'est mis à éclater. Puis moi, le maïs, j'aime ça en crisse. Parce que j'aime, c'est quand que tu mords dedans puis qu'on entend crisser tranquillement le son, le ça, c'est bon. Là, j'ai continué. Je ne m'ai pas laissé avoir par ça. J'ai continué de marcher. Marché, j'ai marché. Mais dis, il va te sauter le popcorn un jour. Mais j'ai continué. Je me disais ça dans ma tête, parce que dans ma tête, c'est comme un tas de maïs qui se touchait, qui se tenait par la main. Mais c'est pas grave, moi j'ai continué. Puis là, à longue de manger du popcorn, je me suis mis à rire. C'était comme si, en dedans, c'était des plumes. J'étais rendu tellement haut, c'était des plumes d'ange que je mangeais. Ça me faisait rire dans mon estomac. C'est comme si j'avais un verre, mais pas un verre solitaire, comme la poune solitaire dans mon estomac, qui me comptait des bonnes vieilles farces qui fermentaient depuis longtemps, puis que là, ils sortaient enfin. Ça me faisait rire. Puis là, j'ai continué quand même de marcher. Puis là, devant moi, je voyais le soleil, j'étais proche, mais je le voyais plus, mais j'étais ébloui. Mais c'était froid. C'était plus des farces de poune. C'était pas des farces de dinde, c'était rien de ça. C'était de la neige. Il y avait des millions de flocons. Puis là, je les ai regardés en plein les yeux. D'habitude, un flocon, tu ne regardes pas ça des yeux parce qu'ils fondent. Lui, il ne fondait pas. Chaque lui, il ne fondait pas. Chaque flocon me regardait avec un sourire d'enfant. C'est le genre de neige là, qui est tout le temps là, là qui ne meurt jamais. C'était ça. Genre de neige qui éclate jamais. Genre de neige infini. Là, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Que l'éternel, ça peut se passer très rapidement. Tu peux le voir dans le sourire d'un enfant. Tu peux le voir partout. L'éternel, ça se passe dans une fraction de seconde. Là, j'étais au bout de la vie. J'étais en haut de la montagne. En avant, c'était la fin. En arrière, c'était le passé. C'était pas mieux. Trop tard. J'étais passé. C'est comme un trou noir surmonté de la neige. Et je regardais les flocons qui étaient morts ou qui étaient même pas vivants. Et je savais qu'ils étaient là pour tout le temps. Parce que c'était la neige éternelle.
Qui n'a ni commencement ni fin, qui dure très longtemps,
dont on ne peut imaginer la fin,
indestructible, infini,
qui ne semble pas devoir se terminer.
Qui lasse par la répétition
continuelle, perpétuelle.
Encore ces éternelles discussions.
Merci.
Alors, on vient d'entendre deux pièces de Frédéric Lebrasseur, des pièces qui sont tirées de l'album « J'ai été élevé par des végétaux live à la radio ». C'est deux pièces qui ont été créées dans le cadre du Mois Multi, édition de 2009. Ça fait déjà quelques années tout de même. C'était présenté au Café Bistrot L'Abraham Martin. Alors, c'est une performance improvisée à partir de divers objets sonores, un peu à la manière dont Frédéric fait son travail sonore, le tout débutant de façon à la manière d'une conférence pour basculer ensuite musical, poétique et philosophique, un travail à l'image de l'infatigable, de l'enjoué Frédéric Lebrasseur. Alors, que dire maintenant pour vous présenter ce talent pur, cette force qu'on pourrait qualifié de vital de l'art actuel à Québec, Frédéric Lebrasseur. Alors, dans un article publié dans Le Soleil de novembre 2009, le journaliste Richard Boisvert nous invite à l'appeler maestro, alors que Frédéric s'attelle à la présentation d'une symphonie portuaire à Gdańsk, en Pologne. Alors, 7 sirènes de bateau, 7 clochers d'église, 1 carillon, 5 cuivres, 2 guitares, 2 marimbas, 12 percussionnistes et 2 voix d'acteurs. Alors, c'est l'orchestre que lui donne l'Allemand Wolfgang Schmidt, qui est le compositeur de cette symphonie, et il va confier à Frédéric Lebrasseur de faire jouer l'ensemble de ses méga percussions. Alors, on reconnaît toute l'envergure de Frédéric Lebrasseur à travers ce projet-là. Alors, Frédéric, qu'on appelle familièrement Fred, pour ceux qui le connaissent bien, c'est un musicien autodidacte, c'est un artiste multidisciplinaire. Pardon. Frédéric Lebrasseur, il est né à Paspébiac, en Gaspésie. On dit dans sa biographie qu'il avait, dès ce moment-là, les baguettes en l'air, mais il va tout de même explorer le monde des percussions à un très jeune âge, en jouant de la batterie, des bouchons de bouteilles, de la guimbarde, et plus que jamais maintenant, on peut le dire, du clavier d'ordinateur. Alors, Frédéric Lebrasseur, c'est un créateur d'univers sonores et musicaux. Il compose, il improvise, il performe pour le théâtre, la marionnette, la danse, le cinéma, sans oublier le monde du cirque, dont il fait partie de cette troupe qui s'appelle Machine de cirque. Et il collabore depuis nombreuses années avec de nombreux collectifs. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric il y a quelques semaines, et alors on écoute écoute une pièce de Frédéric et on enchaîne avec cette entrevue que j'ai réalisée. Frédéric Lebrasseur, bienvenue à La Croche-Oreille.
Merci Gaëtan de m'accueillir ici.
Frédéric, j'avais hâte de te rencontrer et puis de poser la question, c'est ce que tout le monde veut savoir à propos de Frédéric, mais comment apparaît la musique ou les arts sonores dans ton parcours, je vais dire ça comme ça, d'être humain?
Ben, je dirais que depuis tout petit, tu sais, à partir du moment que j'ai voulu avoir une batterie, je me suis mis vraiment à jouer sur des boîtes de carton, des chaudrons, des cannes de conserve. Puis à partir de là, j'ai conservé justement, comme telle la canne elle-même, l'idée que le son était bon sur tout, tu sais, tout pour faire du son. Tout est sonore finalement, mais qu'est-ce qui est de la musique, qu'est-ce qui est du bruit, comment rendre les sons musicaux, comment rendre la musique brutale, même bruitale, dirais-je.
Et cette passion-là, est-ce qu'elle s'est poursuivie dans ton cursus scolaire ou si tu as été vraiment un gars qui a accumulé au fil des ans une expertise, un savoir-faire sonore et musical?
Le mot scolaire me dit vaguement quelque chose, mais les fois que je suis allé à l'école, j'étais payé pour jouer. Non, moi, j'ai aucun lien. Ben, quoique à l'école, quand j'étais au secondaire, le soir en parascolaire, je faisais de la musique live pour des spectacles de théâtre où j'étais acteur-musicien, où je frappais sur des casiers en métal avec mes baguettes. C'était déjà ça. Puis, je pourrais dire plutôt qu'après, tout le reste de ma vie, quand t'as un genre de passion, de quoi que t'aimes vraiment, tu fais juste continuer de frapper partout, d'écouter comment ça sonne, d'avoir conscience, d'ouvrir ta conscience à ça. Je faisais des tests, je me suis bandé les yeux pendant plus de 24 heures, de 48 heures, puis je me suis promené dans la ville avec quelqu'un qui m'accompagnait, puis pour me sensibiliser à ça. Puis aussi, vu que je faisais de la musique de théâtre, ben le rapport entre le son et l'image a toujours été important pour moi.
Est-ce que tu veux, Fred, pour se mettre un peu dans l'appétit, on va écouter un extrait de Fred et sa grosse bande d'improvisateurs, parce que ça reste tout de même cette idée d'improvisation, d'aléatoire, de hasard là, dans le travail sonore demeure fondamentale. Donc, on écoute ça, puis on revient ensemble. Frédéric, dis-moi, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
On vient d'entendre la pièce qui s'appelle Free Jazz de la Gaspésie. Ayus que tu voulais qu'une tuque sa tête te crisse.
OK.
C'est prononcé en Paspeya, parce que je viens de la ville de Paspebiac, et c'est l'accent qui est très, justement, peut-être qui m'a inspiré au niveau sonore.
Ouais, donc tu es Gaspésien d'origine?
Oui, je suis venu rester à Québec quand j'avais 17 ans à peu près. Là.
Dis-moi, est-ce que le fait d'appartenir à ce continent québécois qu'est la Gaspésie, est-ce que ça a eu une influence sur ta façon de travailler comme artiste?
Inévitablement, mais je sais pas vraiment à cause de quoi, puis tout. Mais c'est sûr que le fait que quand tu es une place comme la Gaspésie, tu es éloigné de plein de choses, en même temps tu es proche de plein d'autres choses. Je sais pas, j'avais beaucoup d'amis, j'étais proche du monde, je collaborais beaucoup, j'aimais les collaborations, dirais que j'ai appris ça là-bas. Là tu arrives ici, il y a plein de monde avec qui tu peux collaborer. Fait que la vie est une collaboration avec des multiples personnes pour moi, puis c'est comme ça que j'apprends. On est autodidacte, on apprend tout seul, mais c'est pas vrai, j'apprends surtout quand je joue avec les autres.
Dis-moi, Frédéric, tu m'as fourni en préliminaire de notre rencontre une liste de travaux, de pièces, de créations que tu as fait ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Je prends un titre au hasard qui est « Frotter, geler » et j'aimerais que tu me parles de ce projet ou de cette création en tant que telle.
Bien, si on continue dans la veine où, comme la pièce qu'on vient d'entendre tantôt, c'était les improvisateurs, ma grosse bande d'improvisateurs, c'est des gens que je dirige en impro. Ça veut dire que je leur fais des signes. Après, j'ai découvert qu'il y en a qui appelaient ça du sound painting, comme Walter Thompson, qui a développé tout un vocabulaire, puis appelait ça sound painting. Après, il y en a plein d'autres qui font ça au Québec, genre de Homme, René Lucier. Après ça, John Zorn, à sa façon. Tout le monde le fait. Bon, moi, je voulais le faire à la mienne, inspiré de Zappa aussi, bien sûr. Puis, bon, j'ai dirigé comme ça des professionnels en studio 2 jours de temps pour faire l'album live en studio. Mais après ça, en parallèle à ça, parce que ça fait plus qu'une dizaine d'années que je fais ça, je donne beaucoup d'ateliers dans des écoles. Puis j'ai eu la chance d'être résident à l'école Saint-Jean-Baptiste, ici, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, où j'ai passé classe par classe, au moins 2 à 3 fois chaque classe de tous les niveaux, de maternelle à 5e à 6e année. Puis j'ai dirigé l'école au complet, puis même ce qui était fabuleux, c'est qu'eux pouvaient diriger. Il y a un petit garçon de la maternelle qui m'a demandé s'il pouvait diriger toute l'école. J'ai dit, ben oui, j'avais pensé à toi, parce que tu sais, je le rencontrais dans le corridor, puis il me disait, Maestro Fred, c'est comment encore pour faire les notes longues? C'est quoi le signe? Tu sais, il voulait tout savoir, puis il était hallucinant. Puis il a dirigé toute l'école. Mais moi, j'ai tout capté ça, j'ai tout enregistré ça. Je leur ai dit que j'allais utiliser ça pour faire des musiques. Bon, je l'ai utilisé des fois. Je l'ai utilisé entre autres avec les Incomplètes, la compagnie de Québec, ces filles qui font du vraiment beau travail pour la toute petite enfance. On a fait on a travaillé ensemble sur une exposition, plusieurs expositions au Musée des Beaux-Arts, entre autres, dehors, dedans, puis dans ma maison, où j'ai utilisé ces trames-là aussi pour les mélanger à d'autres choses. Là, ce qu'on va entendre, j'ai utilisé comme un fond de xylophone. C'est pour ça que le titre, c'est un titre provisoire, là. C'est la première fois que ça va jouer à la radio, là. C'est que je l'ai mis dans un logiciel que je connaissais pas, qui était nouveau, que je me rappelle même plus du nom. Alors, je pense que c'est Hourglass, un peu faire comme de la musique répétitive, un peu à la Philip Glass. Je l'ai mis là-dedans, cette boucle-là de xylophone qui m'ont joué dans une classe de deuxième année, je pense, ou troisième année. Puis après ça, j'ai créé quelque chose. Mais ça va dans une série de tableaux, de pièces musicales, un peu comme des tableaux qui s'appellent des timbres rythmiques, que je pourrais parler tantôt.
Si tu veux, on va écouter Xylo frotté gelé, on revient ensemble.
Thank you.
Ben, les timbres rythmiques, c'est comme une idée que j'ai eue. Je sais pas si ça veut vraiment dire de quoi, mais pour moi, ça veut vraiment dire de quoi, puis même de quoi de très particulier. Je vais vraiment te donner la source de ça.
Il y a de cela des milliards de lunes, des princes surnaturels et des princesses réalistes ont composé des timbres rythmiques pour absolument rien, par pure coquetterie. Ils les égarèrent entre deux atmosphères. Lors de mes rêves, comme à mon habitude, je tentais d'atteindre et d'entendre le silence absolu. Mais mes oreilles aspiraient des centaines de timbres rythmiques, et ce si rapidement que j'en devins totalement sourd. Dès lors, à chaque jour dans mon studio, je m'affaire à reproduire le plus fidèlement possible ces musiques. Malheureusement, je ne peux garantir l'exacte similitude de ces compositions singulières, ma surdité m'en restreignant. Toutefois, je vous promets l'émotion intacte de mon épiderme sans cesse frissonnant.
C'est à travers cette performance, je vais dire ça comme ça, il y a tout de même là, une préoccupation dans ton univers sonore pour ceux qui sont habités par le silence.
Tout à fait. C'est la théâtralité, le silence, tout ça, ça me parle beaucoup. C'est des gros concepts fondamentaux, le silence dans la musique, mais le silence aussi dans le théâtre, dans le visuel aussi. Le silence, ça peut être l'absence, mais ça peut être le silence. Puis il y avait John Cage, je sais, qui disait qu'il était allé dans un isolatoire, là, une place où on n'entendait rien, puis il entendait des sons, fait qu'il avait dit après qu'il avait entendu des sons, tu sais, puis c'était son cœur qui battait, le système nerveux, qui est un son très aigu, puis un bourdonnement grave, qui est le sang qui circule dans le corps. Ça fait qu'il avait dit le silence absolu n'existait pas. Lui, il avait décidé ça comme ça, par lui-même, tu sais. Mais moi, je me disais, ouais, mais attends, on peut l'entendre, le silence absolu, si... Mettons que je rêve au silence absolu, donc il existe, hein, tu sais, si mon cerveau a réussi à ne plus l'entendre, tu sais. Fait que je partis sur l'idée qu'on se forçait à entendre... Tu sais que quand je m'endormais, j'essayais d'atteindre ça un peu comme un moine qui pourrait décider que lui, il médite puis qu'il est capable de couper l'entrée du son. Tu sais, bon, un fakir pourrait faire ça, décider d'être un fakir sonore puis de faire qu'il n'entend rien, tu sais. Puis que quelqu'un, il va chier puis il l'entend pas, ça fait pas mal. Tu sais, c'est un fakir, mais d'une autre façon, contre la douleur, mais contre tous les bruits ou n'importe quoi. Puis il se sentirait bien comme ça. Tu sais, les moines tibétains, ils méditent avec la grosse musique, des trompettes, des sons. Peut-être que ça les amène ailleurs, mais bon. Puis là, je me suis dit, à partir de là, imagine si quelqu'un était devenu sourd parce qu'il y avait eu trop de sons, tu sais, parce que on aime ça, la musique, des fois, on fait des bruits forts pour, tu sais, hey, cette machine-là, ça ne baille, mais maintenant, on n'a pas de bouchon pour on a mal. Puis je me suis dit, comme ironie du sort, quelqu'un un peu comme Beethoven qui ferait peut-être trop de musique ou je ne sais pas, qui deviendrait sourd, hein, quelque part. Après ça, comment faire pour se rappeler de tout ça puis quand même la jouer, tu sais.
Frédéric, on enchaînerait avec une pièce. Laquelle serait dans l'enchaînement le plus cohérent avec ce que tu nous racontes, qui est tout de même assez intéressant?
La plus logique, c'est de quoi qui découle pas de ça, mais qui doit découler tout à fait de ça. Je m'en rends compte juste là, maintenant, aujourd'hui. C'est que je fais des compositions, puis je me suis mis à faire des compositions sans écouter ce que je faisais. On en parle après la pause.
Ça sera pas une pause, ça va être cette pièce. I'm going to go to the hospital. Frédéric, on vient d'entendre Jorodowski, Sans oreilles. J'aimerais que tu nous parles de ça.
Ben, celle-là, le titre officiel, c'est Jodo sans oreilles, buste ou diget. J'étais en Hongrie, à Budapest. On jouait là avec Machine de Cirque. C'est la compagnie avec qui je fais le plus de spectacles de ce temps-ci. On travaille partout dans le monde, tout ça. C'est une super gang. Puis Johan, qui est un des acrobates, il est très créatif. Il est toujours en train de faire une vidéo, faire de quoi. C'est que je suis parti en avion. On s'en allait à une place où c'était pas loin. C'était 45 minutes le vol. Fait que lui, il dit, oh, je sors pas mon ordi. Je dis, comment tu sors pas ton ordi 45 minutes? Je dis, moi, j'ai le temps de faire une compo. Je dis, c'est juste un peu pour le larguer, un peu pour le challenger. Je dis même que je vais la faire sans écouter. Parce que j'avais pris l'habitude de faire ce que j'appelais des Jodorowsky. Un Jodorowsky, pour moi, c'est faire une pièce sans entendre, pas sans entendre, mais sans, sans, un peu improvisé. Tu prends des choses, j'ouvre mon logiciel, je drague des affaires au hasard, je les modifie, mais très rapidement. Comme des fois, je la fais en 15 minutes. Fait, j'appelle ça un Jodo 15, tu sais. Jodorowsky, c'est Alexandre Jodorowsky à qui je fais référence, qui travaille beaucoup en utilisant l'improvisation ou en mettant des choses qui vont pas ensemble d'une façon dadaïste ou surréaliste, mais beaucoup dans le processus de création, autant que dans ses films, ses dessins, ses bandes dessinées.
Frédéric, on va entendre un extrait du créateur Jodorowsky. On va l'écouter ensemble. Alors, on l'écoute.
Ben oui, Jodorowsky est aussi musicien, hein, faut pas l'oublier, il compose, et c'est un homme de multiples talents, une influence aussi, il est rendu à 80-quelques, puis on dirait que c'est un gamin, c'est un génie pour moi. Bref, on pourra enchaîner aussi avec un jodo que j'ai fait, il s'appelle Jodo Brest Aller. C'est parce qu'on allait jouer justement à Brest, en Bretagne, puis dans l'autobus, je pense, en 15 minutes, j'ai fait cette composition-là, une composition où j'écoutais, mais vous allez l'entendre. Ben c'est ça. Je faisais des Jodorowsky improvisés, mais là cette fois-là, c'est là que j'ai décidé de le faire sans entendre. Ça veut dire, j'ai pas le droit de. J'enregistre des sons, mais je regarde juste mes VU-mètres dans mon ordinateur, mettons, parce que là j'ai un ordinateur. Souvent je suis dans l'avion, à quelque part comme ça. De toute façon, ça sonne mal avec nos écouteurs. Puis là, je me suis dit, ok, on fait ça sans entendre. Ça veut dire que je drague des choses au hasard, mais en plus. Je mets des effets dessus, je les vire à l'envers, je les étire, je les raccourcis, je les empile. Puis pour moi, ça m'aide beaucoup. Bon, des fois, les tunes sont vraiment intéressantes, mais d'autres fois, c'est plutôt... Ça m'aide à utiliser des effets que j'ai dans mon ordi que je sais pas c'est quoi, que des façons de faire. C'est vraiment... Ça m'aide à aller plus loin dans mon processus de création. D'ailleurs, j'aimerais ça donner un atelier bientôt là-dessus à des gens qui font déjà de leur audio, puis comme pour leur ouvrir des portes ou... Essayer ça, de faire de la musique sans entendre ce qu'on fait, même capturer des sons, mais pas le réécouter après, puis jouer avec ça.
Et Fred, le message est lancé, en tout cas pour ceux que ça puisse intéresser. Alors, je poursuis avec ta liste concernant ce projet qui s'intitule Phosphen. Alors, j'aimerais que tu nous parles de ça.
Oui, Daniel Deslauriers, son nom c'est Devil Dandy, son nom d'artiste. Avec lui, c'est toujours un peu magique. Je pourrais dire, c'était comme un maniaque de son. Il va pouvoir, tu sais, avec Rancho Banjo, Martien Bélanger, mon collègue avec qui je joue très souvent, on a joué avec des Allemands, on a joué avec plein de monde. Puis Daniel Delaurier, des fois, il s'est joint à nous en spectacle, comme avec Zwei Parchou, avec nos deux amis allemands, au mot multi, hein, Méduse. Mais aussi, on lui a donné plein de sons, moi puis Martien, on lui a donné des sons à l'infini, puis lui, il est méticuleux, fait qu'il va prendre chaque parcelle de son, puis la rediviser pour... c'est comme s'il travaille avec des cellules, finalement. Puis ce qui est bien avec lui, c'est que tout, il fait tout ça, mais pas nécessairement d'une façon trop intellectuelle, quoique c'est quand même un intellectuel, mais je veux dire, une façon organique, puis ça peut être bien sale, des fois un peu trash, puis ben, sa palette est quand même assez large, puis c'est un autodidacte, lui aussi, comme Martien, puis moi, finalement. Fait que... Il a fait un album qui s'appelle Phosphène, mais il a aussi fait Phosphène Live. Puis ça, c'était génial, parce qu'on était à une galerie ensemble. Puis là, il a dit à moi puis Martien, vous faites ce que vous voulez. Mais il faisait jouer des tunes dans nos écouteurs. C'était pas des tunes au complet, mais il nous envoyait des atmosphères, des débuts de tunes, des embryons de tunes. Puis nous, on jouait dessus. Mais des fois, ce qu'il nous envoyait, c'est déjà nous, des sons qu'on y avait donnés de nous, mais il y a peut-être 5 ans de ça. Puis des fois, on savait plus qu'est-ce qu'on était en train de jouer. C'était nous, c'était pas nous, parce qu'il nous modifiait en live. Il nous intégrait avec ça. Puis en plus, cette fois-là, on a battu un record Guinness, parce que on a fait un album comme ça. Une fois qu'on a fini de jouer après 45 minutes, je pense que c'est même pas 8 minutes après, il vendait l'album qui était déjà gravé.
Frédéric, on va écouter Devil Dandy, Daniel Delaurier, une pièce tirée de Phosphène.
Thank you.
Frédéric, dis-moi, il est clair que dans ta démarche, il y a toujours cette idée qu'il ne faut pas avoir le contrôle sur l'ensemble de ce qu'on fait. On participe à une aventure de hasard, une aventure très aléatoire.
Tout à fait. Picasso, il disait, je ne cherche pas, je trouve. Moi, souvent, je dis, je trouve pas, je cherche. Parce que je trouve que trop souvent, on fait des labos de recherche, mais souvent, on a toujours un but qui arrive pas loin après. Fait que des fois, on dirait que c'est trop orienté. Des fois, c'est parfait comme ça, avec pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire là, puis on le fait, puis après, c'est ça qu'on fait dans le show. Mais d'autres fois, d'ouvrir ça. Puis d'ailleurs, le prochain projet que je fais dans la semaine qui vient, ça va être exactement ça qui va se passer. Je vais enregistrer l'ensemble inachevé de Fred. L'ensemble inachevé, c'est un ensemble à géométrie variable que j'ai depuis quand même plusieurs années, où j'ai fait plein de tests, mais avec qui on n'a jamais joué. J'ai fait des tests chez nous, en mélangeant des musiciens bigarrés, je pourrais dire, du monde qui sont des musiciens professionnels, des grands improvisateurs, d'autres qui sont pas nécessairement musiciens dans la vie, mais qui ont toujours aimé les sons, d'autres qui, ça peut être un enfant de 6 ans, un autre, ça peut être... quelqu'un qui dessine, comme Francis Dernay, avec qui je travaille souvent, qui fait du dessin, mais il met un micro sur son crayon, un piezo, puis moi je le modifie. Mais là, il s'est fait une table à son, puis il fait juste gratter des sons, il fera aucun dessin. Daniel Delaurier aussi, il va être justement dans le projet. Bon, puis plein de monde, il va y avoir du monde d'un peu partout aussi, du monde de Québec, comme Georges Azaria, que tu connais. Qui vont modifier, ça va être un peu comme le projet où je dirigeais en impro, là on va être en studio, je vais diriger en impro, je vais avoir 14 personnes, mais ces 14 personnes-là, il va y avoir du monde qui vont jouer des sons, faire des bruits, mais d'autres qui vont les modifier en électroacoustique. Tout ça chez Stéphane Rancourt, qui m'a invité à faire ça au Bear Studio, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Puis là, c'est vraiment l'expérience de... Depuis le début, quand je parle à Stéphane, je dis, tu sais, ça, c'est l'idée, mais j'ai aucune idée comment ça va sonner. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis quand je parle à chaque personne, je leur dis, l'affaire la plus importante, c'est une rencontre. On rencontre le studio, on se rencontre entre nous, on rencontre des façons de faire, tout ça. Après, c'est la magie. Si on ne donne pas de place à la magie, on n'a pas de chance pour qu'il arrive de quoi, tu sais. Fait qu'on va voir. Puis après, le but, c'est que s'il y a 10 minutes, il y aura 10 minutes de bon, mais d'après moi, il va en avoir quand même plus. Mais on ne sait jamais. Peut-être 11, 12. Mais après ça, je veux que ce soit sur Internet, libre de droit. Les gens vont pouvoir prendre ça. Il va juste falloir qu'ils nomment la page de mon site. Il va avoir répertorié toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet. Puis, le monde pourra l'utiliser pour faire de la musique de film, pour le plaisir, pour ce qu'ils veulent après.
Alors, Frédéric, on vient d'entendre Harpe Piezo, qui est un projet que tu as réalisé en collaboration?
Oui, c'est un projet, finalement, je suis en duo avec Isabelle Fortier, qui est la harpiste qui joue entre autres dans l'Orchestre symphonique à Québec. C'est une très bonne musicienne, une grande musicienne qui improvise très bien. Pardon, j'en parle toujours avec nostalgie. non, c'est pas vrai. Elle est toujours très bien en vie. D'ailleurs, là, quand j'écoutais ça hier, je me disais, il faut vraiment qu'on fasse un album ensemble de drum and harp, parce que ça marche super bien. Mais là, cette fois-là, c'était Émilie Baillargeon qui fait des documentaires, qui m'a demandé de faire la musique. C'est un triptyque qu'elle a réalisé pour la Fabrique culturelle, là. L'île aux oiseaux, ça s'appelle. C'est sur le travail de Pierre Thibault, l'architecte de Québec, qui part se promener avec ses élèves, s'en va dans le bout de Tadoussac, s'en va dans le bout de la Gaspésie. Puis il essaie, il regarde comment réagit une structure à différentes places sur l'eau, comment il peut l'allumer, tout ça. Fait que ça, c'était super stimulant. Puis moi, j'ai tout de suite fait entendre à la documentariste un jam, une soirée d'impro que j'avais faite en duo avec Isabelle au Sacrilège. Puis elle a dit, c'est ça que je veux, du drum puis de la harpe. Fait que là, on est parti de ça, en studio, chez nous, on a enregistré plein d'éléments. Puis, ben, ça crée ça, fait que c'était super stimulant. Puis là, c'est ça, en écoutant ça hier, je me dis, là, il faut que je fasse un duo avec Isabelle, parce que à l'improvise, c'est vraiment hallucinant tout ce qu'elle peut faire avec sa harpe. Elle frotte avec du crin de cheval, les cordes, faire comme un des archets, elle a fait distorsionner, elle fait toutes sortes de choses. Puis après, tout son côté harmonique aussi. Une harpe, c'est fabuleux, c'est un peu comme un piano, c'est une caisse de résonance. Mais c'est très différent d'un piano, puis ça fait, c'est une différence qui en vaut la peine, je dirais.
Fred, une heure s'est vite passée. On pourrait passer plus d'une heure ensemble. Pour conclure notre rencontre, tu as des projets là qui s'en viennent plus qu'un. Si tu me brosses ça un peu rapidement, ce que tu fais dans les prochaines semaines?
Oui, ben c'est ça. De ce temps-ci, je travaille entre autres pour le Théâtre de l'Aubergine, qui est un spectacle clownesque où je fais une trame sonore, mais je ne serai pas là en live. Je travaille aussi avec Bloc, un projet qui se passe à Bordeaux, avec le théâtre La Boîte de sel, qui fait des spectacles à la petite enfance. On a fait des blocs comme en plexiglas avec des sons dedans. Chaque bloc a un son différent. Fait que là, on s'amuse à faire ça. Je vais aller en Europe bientôt pour ça. Je travaille toujours avec le projet Nous aurons, avec Hugo Nadeau et Antonio de Braga. Un projet vraiment assez éclaté et fou. Il va y avoir des affaires live avec ça, tout ça. Bon, bien sûr, je travaille beaucoup avec Machine de cirque, toujours avec Claudie Gagnon, avec le théâtre à Tempo aussi, c'est Olivier Forêt, avec qui on joue ensemble. On a fait un spectacle qui s'appelle Concerto de bruit qui court. Puis, quand on joue en duo aussi, on s'appelle le Bidule Band. Ça, c'est moi puis Olivier Forêt. On se promène un peu partout, puis on frappe sur tout. Même, on a déjà joué du spaghetti une fois.
Alors, Frédéric, merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis, on termine ça avec un extrait des symphonies portuaires.
Merci.
Alors, on vient d'entendre un extrait des symphonies portuaires qu'a réalisé Frédéric Lebrasseur. C'était en 2009, c'était en Europe. Alors, histoire de compléter cette soirée, d'abord, mes remerciements à Frédéric pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Je rappelle que Frédéric est en tournée en Europe durant le mois de novembre, entre autres Machine de cirque, qui présente un spectacle en version cabaret, notamment au Gop Variété Théâtre de Hanovre. Et pour clore ce périple radiophonique avec Frédéric Lebrasseur, on écoute ensemble un titre qui s'intitule « L'éléphant rétrograde ». C'est tiré de l'album live en studio réalisé par Fred et sa grosse bande d'improvisateurs. Voilà ce qu'achève la croche-oreille pour ce soir. On est de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL 89,1. Je vous invite en attendant à jeter un coup d'œil sur le site La Croche-oreille, lacrocheoreille.wordpress.com. Et comme mot de la fin, alors soyez attentifs aux sonorités autour de vous.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. La Croche-Oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.